Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, c'est Cyrus et nous sommes à Debrecen et des Jeux 2018, nous sommes le 9 juin. Et nous sommes en compagnie de Didier Jacobé de Sweet Games.
Bonjour.
Bonjour Didier. Et je suis accompagné évidemment de Père Castor à la technique et de Flavien.
Bonjour Président.
Bonjour Président.
Ah ça y est, ils attaquent fort.
Hein. Ah ils attaquent fort. Ah, non, c'est le running gag je crois. Mais comme après je vais arrêter de faire les interviews, ils pourront plus le faire.
Ok, il y aura un nouveau Président alors.
Bah ouais peut-être, peut-être élire un nouveau Président à la table.
Ok.
Alors Didier, donc tu représentes Sweet Games.
Oui.
Alors Sweet Games, alors moi j'avais entendu parler de Sweet November.
Alors Sweet November, Games. C'est le nom de la société. Ouais. Sweet Games, c'est la marque des jeux adultes.
D'accord.
Voilà, on a d'autres marques pour les jeux enfants, Ballon Bleu par exemple, ce genre de choses. Et là sur les salons, on présente essentiellement des jeux pour adultes ou pour les familles. Donc sur la marque Sweet Games, donc on communique sur Sweet Games et pas sur Sweet November.
Alors qu'est-ce que vous présentez là sur le festival ?
Alors sur le festival en fait on présente 6 jeux différents dont 4 protos qui ne sont pas encore sortis, qui sont les jeux qui vont sortir cet été pour conquérir les marchés dès le mois de septembre.
Carrément.
Donc c'est dont certains d'ailleurs c'est la première fois qu'on les montre au public. Donc c'est pour nous assez amusant. Là j'ai l'impression que c'est le début de l'année, là c'est presque une rentrée scolaire pour moi.
Alors que t'as plus l'âge de faire tes rentrées scolaires.
Bah, t'es sympa toi. non, c'est, je fais la rentrée de mes enfants maintenant. Je ne suis pas encore aux petits-enfants, c'est bon.
Ça va. Alors du coup, par exemple, qu'est-ce que tu présentes comme jeu ?
Peut-être commencer par ceux qui ne sont pas les protos, quoi, les autres.
Ouais, alors parmi les jeux qui sont déjà sur le marché, on présente bien évidemment Seeders Exodus, l'épisode 1. Qui est notre jeu expert, le début d'une série de 10 gros jeux. Voilà, qui est un jeu qui fonctionne très 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 bien, qui est très bien accueilli par le public des joueurs experts, qui a gagné des prix à Lyon, qui est arrivé finaliste sur la plupart des festivals en France, et dont le début à l'étranger commence aussi très très fort. Et là, on en profite également pour les joueurs qui connaissent bien le jeu, on leur montre les trois extensions qui vont sortir à la rentrée, qui permettent de jouer à 5 joueurs, de jouer avec une 7e cast.
Avec Moïse.
De faire des scénarios différents pour jouer avec des règles différentes, enfin voilà, renouveler l'expérience de jeu. Quoi.
Et ça sera 3 extensions vendues séparément ou elles ne seront pas 4G ?
Non, les 3 extensions sont vendues séparément et les joueurs choisissent parmi les 3 ce qu'ils préfèrent. Voilà. Comme le but du jeu sur la série Seeders Home Series, c'est de sortir en une dizaine d'années une dizaine de gros jeux, ça signifie que voilà, c'est cette année qu'on sort les 3 extensions de cet épisode-là, avant que l'an prochain ne sorte l'épisode 2 qui s'appellera Series, Conquest of Series, qui sera différent et donc on parlera plus que de Conquest from Series. Voilà.
Et ça, alors, ce sera quoi comme style de jeu, l'épisode 2 ?
L'épisode 2 sera quoi comme style de jeu ? On sera plus sur du placement d'ouvriers, mais c'est très particulier parce que ça combote pas mal de types de mécaniques différents. On devra découvrir une nouvelle planète qui est la planète sur laquelle les semeurs vont s'installer, qui s'appelle Cereis. En s'y installant, on va découvrir des artefacts d'une ancienne civilisation. On va essayer de comprendre, de faire fonctionner pour remettre
en... Essayer de comprendre la civilisation. Pas juste.
Non, parce qu'elle est déjà exterminée en fait. La planète,
ça c'est fait.
C'est pour ça que c'est des artefacts qu'on retrouve. Et on va essayer de refaire fonctionner leur système d'énergie, on va essayer de refaire fonctionner leur technologie de vols spatiaux, etc., etc. Et on va essayer de refaire fonctionner la grande génothèque, qui est une intelligence supérieure qui garde en mémoire tous les flashs mémoriels des anciens Cériens qui étaient les anciens habitants de cette planète. Et cette intelligence supérieure, rapidement, il va y avoir 2 philosophies. Certains qui considèrent que c'est une intelligence artificielle d'un degré technologique tellement développé qu'on est incapable de comprendre ce fonctionnement. Et d'autres, bien évidemment, qui vont estimer que cette intelligence supérieure est de nature divine. Ils vont lui donner un nom, ils vont l'appeler Xu, et ils vont commencer à créer... une secte qu'on appelle les théocrates.
On appelle la religion.
Et ce sera une religion 2 siècles plus tard, puisque quand on joue par exemple à Exodus, qui se déroule 2 siècles plus tard, les théocrates sont la religion majeure des semeurs. Voilà.
Donc là, c'est une espèce de prélude dans la chronologie.
C'est ça, on revient 200 ans en arrière, l'installation des semeurs sur Cereis. à une époque où ce sont encore, ils s'appellent encore les post-otériens, puisqu'ils ont quitté la Terre 15 siècles plus tôt. Ils ont enfin trouvé une planète capable de les accueillir. Et en copiant donc les technologies spatiales des anciens habitants de cette planète, qu'on appelle les Céréens, ils vont réussir à reconstituer en l'espace de 2 siècles l'ancien empire marchand des Céréens. Mais ils vont aussi rencontrer Xu, pour le meilleur, et peut-être pour le pire, ça l'avenir le dira.
Et tout ce background, en fait, il a été apporté déjà par l'auteur.
Enfin, parce que là, alors, ça fait beaucoup d'histoire. Quoi, enfin.
Le projet, c'est pour ça que la première boîte s'appelle Seeders from Céréis, épisode 1, Exodus. Donc, je vous ai expliqué pourquoi on appelait épisode 1, c'est parce qu'il y en aurait 10 au total.
Et tu sais déjà qu'il y en a 10.
Ouais. Et Seeders from Céréis, c'est le nom de l'univers donc, qui a été créé par Serge et Charbel. Ils ont bossé pendant 5 ans... Serge Macasdar et Charbel Fourel. Ils ont bossé pendant 5 ans pour rédiger ce que nous on appelle la Bible, qui est un document de 600 pages qui relate toute l'histoire de ce peuple qui a quitté la Terre après l'explosion du méca-volcan de Yellowstone qui a rayé de la carte la moitié de l'Amérique du Nord et qui a vécu donc une phase exceptionnelle où ils étaient carrément à la tête d'un empire comme jamais les humains n'ont connu et à qui va arriver plein de trucs. Et ce sont ces événements majeurs qu'on relate par chaque épisode du jeu. Chaque épisode correspond à un événement majeur. Voilà, donc il va y en avoir 10. Au fur et à mesure, on connaîtra de mieux en mieux la population des semeurs. Et puis, beaucoup de questions vont se poser. Et à la fin, vous aurez peut-être la réponse.
42.
On la connaît déjà, tu vois.
C'est intéressant comme démarche.
Ouais, c'est assez fou comme
démarche. Parce que, en fait, Serge, il est arrivé avec la mécanique du jeu et l'univers. Et alors que souvent, les éditeurs, ils ont tendance à complètement changer l'univers ou changer la thématique.
Mais en tout cas, c'est une possibilité, ouais.
Alors, en fait, Serge et Charbel avaient commencé à rédiger la Bible. Ils n'en étaient pas à 600 pages à cette époque-là. Et Serge avait conçu 2 jeux, dont son premier jeu qu'il avait présenté à Parthenay au festival, au concours, il y a quelques années, qui est arrivé 2e, est un jeu pour l'instant que moi, je n'ai pas retenu parmi les 10 épisodes. Et quand moi, j'ai signé, ce qui m'intéressait justement, c'était de pouvoir faire une série sur tout l'univers et pouvoir travailler sur ce projet pendant 10 années. C'est ça qui m'intéresse parce que je suis un éditeur en fin de carrière. Les années commencent à peser.
On va en reparler parce qu'effectivement, Sweet November, c'est pas très vieux.
Mais
ton nom doit parler à des anciens.
Sweet November, oui, à une petite 10 années maintenant. Et donc là, ce projet est un projet pour les 10 prochaines années. Donc moi, quand j'ai signé sur le projet, j'ai dit à Serge et Charbel, OK, je signe, mais je peux pas commencer à travailler sur le premier jeu avant 2 ans. Donc je veux que pendant 2 ans, vous travaillez sur le background pour me faire un document gigantesque, de façon à ce qu'on puisse faire des jeux de plateau que nous on fera, mais qu'on puisse également faire des romans, des nouvelles, des jeux de cartes, du jeu de rôle, etc. Ah, etc.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une démarche vraiment très globale en fait dans ce projet.
Le fameux transmédia qu'on a eu par exemple dans le jeu vidéo beaucoup, et on a moins dans le jeu de société. Et il y a vraiment, et c'est pas juste cross-média, c'est vraiment à moins que...
Le but, c'est on s'interdit pas non plus de faire du jeu vidéo, par exemple.
Yes.
Voilà. On est dans des économies financières voilà, on travaille pas avec le même nombre de zéros, mais sinon, au niveau des compétences, je pense qu'on a le même type de compétences.
Il y a des choses transversales, ouais.
Voilà, donc on s'interdit pas le fait de pouvoir le faire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on s'amuse bien, là, pour l'instant, parce que moi, je connais le 1, je connais le 2. D'ailleurs, le 2, vous pourrez y jouer. Certains des joueurs ont eu la chance d'y jouer à Cannes il y a quelques mois, sur LudiQuest la semaine dernière, sur Paris et Ludique à la fin du mois. Mais moi, je connais aussi le 3, je connais le 4, je connais les autres jeux déjà qui sont faits. Je fais les premières parties de jeux de rôle sur Parthenay.
Le mec il frime quoi, sérieux.
Non, je frime pas. Mais je frime pas. En tant qu'éditeur, je prends mon pied. C'est très différent quoi, tu vois.
Ouais.
Et dans chaque épisode, vous fournirez une nouvelle comme ce qui avait été fait dans l'épisode 1.
C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ouais. Il y a une équipe, il y a 17 auteurs qui pour l'instant déjà ont pondu des nouvelles. Le problème, c'est qu'ils ont commencé pour la plupart à pondre des nouvelles sur le premier tiers de l'histoire de la Bible, qui faisait déjà 200 pages. Et le premier tiers correspond à l'épisode 3, en fait.
D'accord.
Donc on a beaucoup de nouvelles en stock, mais qui ne correspondent pas à ce qu'on propose au public, ce qu'on présente au public pour l'instant.
Pourquoi avoir choisi de faire d'ailleurs comme ça un ordre non chronologique ?
Ouais, c'est ça, ouais.
Ça n'aurait pas été plus simple
En fait, il nous fallait un épisode, le premier, il nous fallait un épisode où on présente l'univers et où on présente surtout l'organisation sociale des semeurs qui est très particulière parce que les semeurs sont organisés en castes sociales qui sont très hermétiques, avec une caste de dirigeants qu'on appelle les originels. qui sont des enfoirés. Hein, voilà.
Eux, en gros, pouvaient pas. Enfin, il fallait que le décor soit planté, en fait.
Voilà, c'est ça. Donc, le Exodus, c'est un jeu où on présente les Sommers. L'épisode 2, on va présenter Céréis, la façon dont ils se sont bâtis sur Céréis, où ils ont découvert...
D'où ils sont partis, du coup.
Voilà, c'est ça. Donc, là où ils ont découvert les anciens Céréens, copié leur technologie, rencontré Xou. Et pour l'instant, je ne vais pas spoiler le 3 et le 4.
Okay. Il y aura un épisode dédié à la fuite de la Terre.
Ça se pourrait.
Et l'épisode 2, c'est un jeu du même acabit que le premier ?
Parce que c'est, alors, le trait commun, c'est qu'on s'adresse toujours à un public de joueurs.
Ouais. Hein. Mm-hmm.
Alors, j'aime pas le terme d'expert, parce que c'est très segmentant. Et les règles d'Exodus sont simples. Hein, simplement.
Ouais, mais on peut quand même dire que c'est quand même un jeu touffu. Hein.
Voilà, c'est ça.
Il y a beaucoup de strates, quand même.
C'est un jeu où les joueurs qui vont prendre leurs pieds sont ceux qui ont l'habitude de jouer, qui connaissent bien les mécaniques de jeu, ce genre de choses. Même si les règles ne sont pas très compliquées. Et le but de chacun des jeux experts, c'est effectivement de s'adresser toujours au même type de public. Mm-hmm. Mais par contre, les règles de jeu sont totalement différentes.
Mm-hmm. Hein, oui,
voilà. Mais on retrouvera l'organisation sociale des Summers, on la retrouve. Enfin, voilà, tout l'univers, on le retrouve à chaque fois. Et l'idée, c'est chaque année, c'est de se dire, tiens, un peu comme une Madeleine de Proust, qu'est-ce qui est arrivé à nos Summers cette année ? Voilà, et de pouvoir...
Est-ce qu'il y a un personnage qui s'appelle Donna, non ?
Non, il n'y a pas de personnage qui s'appelle Donna, malheureusement. Parce que ça, par contre, c'est de mon époque, je comprends.
Et après, la difficulté, c'est aussi de faire que chaque jeu, si jamais on ne veut pas s'inscrire dans cet univers et tout, que chaque jeu soit intéressant en lui-même, que ce soit peut-être moins du côté de l'histoire, mais du côté mécanique.
Voilà,
quoi, ouais.
Chaque jeu est jouable totalement séparément, sans s'intéresser à l'univers proprement dit. Voilà, on est vraiment dans des jeux qui sont... comment on appelle ça en anglais, des stand-alone, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Ouais.
Voilà.
Après, il y a une strate supérieure qui est effectivement la narration entre les jeux, quoi, qui est quand même d'une ambition. Parce qu'on a souvent vu des gammes comme ça autour d'un même... Enfin, pas souvent, justement, mais souvent, ça,
y a, eu,
ça
y a, eu des tentatives.
A moyennement marché, parce que c'est toujours délicat, parce que si un jeu est mauvais, après, est-ce que tu rattaches pas l'image de la gamme ? Alors que là, moi, tu vois, pourtant, qui suis un peu, j'avais même pas connaissance de ça. Je sais que Maxime, t'as Exodus, qu'on n'a pas encore joué, mais... je ne savais pas que c'était un truc aussi ambitieux que ça au niveau de la création d'univers avec des centaines de pages, etc. Même avec le côté cross-média, quoi.
Ouais, mais on a le temps qui joue pour nous. Et la communauté se crée très rapidement autour du jeu, parce que là, on a lancé une souscription sur les extensions il y a quelques mois.
Alors, qu'est-ce que tu appelles une souscription ?
En fait, comme il y a trois extensions qui sortaient, on a proposé aux joueurs que ça intéressait de souscrire aux trois extensions. Grosso modo, ils en payent deux, ils ont la troisième gratuite.
Ça, c'est de la vente en direct sur votre site, c'est ça ?
Ouais, voilà, c'est ça. Et là, on a vu tout de suite que la communauté existait, parce que les joueurs ont tout de suite répondu présent.
T'as un retour direct, en plus, il est direct dans la caisse.
C'est
double bénéfice.
Ce qui est pas négligeable, mais on limite à 300 boîtes les extensions.
D'accord, ok. Ouais.
Ça, c'est pour pas spoiler le marché des boutiques auxquelles on tient énormément. Mais voilà, c'est pas intéressant. Et là, par exemple, ce qui est drôle, c'est il y a 12 scénarios, parce qu'il y a 4 scénarios originels dans chacune des boîtes d'extension. Donc ça fait 12 scénarios, donc 12 manières différentes de jouer à Exodus. Et avant de les mettre sur le marché, on veut avoir avec le matériel définitif au moins 10 parties de jouer sur chacun des scénarios, ce qui fait 120 parties de Summer à se faire. À 2 heures la partie, ça fait quelques heures de jeu. Et donc on a proposé à nos souscripteurs de recevoir chacun un scénario et de le tester pour nous faire un compte rendu.
Ouais.
Donc ça fait 300 parties qui vont avoir lieu là pendant le mois de juin et le mois de juillet, et qui vont nous permettre d'avoir des retours directs avant qu'on envoie en production pendant l'été pour septembre. Ouais, c'est un boulot énorme, et tout le monde a répondu présent, c'est absolument super. Quoi. Voilà, donc la communauté est en train de se faire. Pour l'instant, le jeu n'est sorti qu'en français, même si il y a eu des boîtes qui ont été vendues en Allemagne aussi, pendant Essen forcément. Beaucoup de boîtes aussi sont apparemment parties aux États-Unis, parce que sur Board Game Geek, ça commence
français, du coup ?
Ouais, en français.
D'accord,
okay. On avait, nous, sorti quelques cartes en anglais, on avait sorti 200 sets de cartes en anglais, 200 D'accord. règles en anglais pour les joueurs qui... Voilà, on le proposait qu'à Essen, en fait. Et voilà, donc le jeu est déjà bien coté aux États-Unis sur Board Game Geek. Ce qui est un peu logique, c'est pas parce que je suis éditeur, mais le jeu est vraiment bon. Voilà. J'invite tous ceux qui ont la possibilité d'y jouer de vraiment pas hésiter. Quoi. C'est un bon moment, c'est deux bonnes heures de jeu.
Et puis, pour revenir sur le côté justement narration entre les jeux, la difficulté, c'est à la fois bien sûr de proposer un bon jeu mécaniquement, mais après, si tu as cette ambition narrative qui se suit, de réussir à travers les mécaniques comme ça, et pas juste dans le paragraphe d'intro des règles, ou même la nouvelle qui est livrée avec, à faire transparaître cet univers-là. Quoi. Comment est-ce qu'on fait pour justement faire imbriquer cette narration à travers les mécaniques,
Bah ça, c'est beaucoup le talent des auteurs de jeux, hein, sur Conquest of Cereist, par exemple, l'épisode 2. Il fallait non seulement donc, découvrir la planète, il fallait trouver les artefacts, trouver des mécanismes pour pouvoir les faire fonctionner, intégrer la découverte de Xou, la création des premiers théocrates. Et donc, en milieu de partie, les joueurs vont choisir, entre guillemets, s'ils suivent la voie des originels, c'est-à-dire ceux qui ont tous les pouvoirs dans la société des Sommeurs, ou bien s'ils basculent dans la voie des théocrates, auquel cas ils vont avoir des règles spécifiques pour la fin de la partie pour eux, etc. etc. Et ça fait partie, c'est un cahier des charges. Donc il y a à la fois les figures libres et les figures imposées, et ça fait partie du talent des auteurs de s'y adapter, sachant que les deux créateurs de l'univers ont un droit de veto sur toutes les créations, de façon à pouvoir assurer la rectitude du fluff.
S'assurer que la thématique soit respectée, en fait,
voilà,
pour faire simple.
Ouais.
Je parlais de cross-média et de transmédia, alors c'est un terme qu'on a depuis quand même quelques temps. On peut penser par exemple pour un truc qui date déjà un peu à In Memoriam, qui est un jeu PC où on était dans une enquête et on pouvait recevoir des SMS, etc. à l'époque.
Visiter des sites internet,
transmédia, ouais. Peut-être que j'inverse les deux, il me semble que ça c'est transmédia parce que c'est un jeu, un produit, un univers, etc. où il y a une interaction entre les différents médias, tandis que le cross-média c'est quand on trouve par exemple Witcher où il y a des jeux vidéo, où il y a des romans. Là du coup ça s'inscrit plutôt dans le cross-média avec effectivement éventuellement du jeu vidéo, éventuellement du roman, de la BD et des jeux de société à côté, ou plutôt un truc qui interagirait les uns avec les autres, je sais pas.
Tout est possible. Dans un premier temps, on va déjà multiplier les produits. J'aime pas dire des produits, puisqu'en fait, c'est tous des jeux ou des. En fait, on est toujours dans le domaine créatif, dans le domaine artistique.
Et effectivement, c'est des choses différentes, c'est des objets différents. Donc
voilà, sont des objets différents.
Produits, du coup.
Qui peuvent être édités par des sociétés différentes. Donc, c'est toujours plus compliqué de mêler tout ça, après, que ce soit en termes de droit, en termes juridiques.
Du coup, vous avez quoi dans les tuyaux, là, concrètement, à part
les jeux ? Il y a pas mal de choses, mais c'est encore un petit peu trop tôt pour en parler. Je préfère me concentrer sur ce qu'il y a d'abord présent sur le marché. Faire rêver, c'est bien, mais on va d'abord travailler sur le concret. Le concret aujourd'hui, c'est Seeders Exodus, c'est trois boîtes d'extension qui sortent en septembre.
Ouais.
Un jeu qui est un jeu dans lequel on travaille, on joue dans les bas-fonds le soir après le boulot, dans le noyau. Le noyau, ça, c'est l'essentiel de la population des Sommeurs. C'est là qu'on trouve les ouvriers, les commerçants, les petits éditeurs de jeux, ceux qui sont exploités par les deux sectes dirigeants.
Ça, c'est un jeu à part.
Voilà, c'est ça. Ça s'appelle Carmen Swap. Et c'est un jeu, on joue à deux contre deux le soir à la taverne. Et c'est pour montrer à ces enfoirés d'originels comment on fait pour conquérir des planètes.
Donc concrètement, je traduis un peu parce que je sens que t'es énormément dans ton fluff. Alors moi, je me suis renseigné, donc je sais deux, trois bricoles. Donc ça, c'est un jeu de cartes, c'est ça ?
Ouais.
Donc qui est, c'est un peu la belote de l'univers, quoi, de cet univers-là.
Ouais.
Ça n'a rien à voir en termes de mécanique
avec la belote. Mais c'est la belote de dans 17 siècles.
Voilà, c'est ça. Donc c'est un jeu de cartes qui joue à deux contre deux, et donc qui est censé être le jeu qui se joue au bar dans l'univers de Seeders.
Voilà.
Et le carton a survécu dans le futur.
Ouais, enfin, je suis pas certain que ce soit en carton, d'ailleurs. Mais... le jeu est très très sympa puisque tu dois conquérir des planètes, donc tu envoies tes vaisseaux spatiaux sur des planètes qui sont à chaque fois peuplées par trois types d'habitants. Tu dois choper des majorités pour marquer les points sur la planète. Quand tu estimes que tu as marqué tes points, tu te barres sur une autre planète, etc. Sachant que tu joues à deux contre deux, donc il faut essayer de savoir ce que ton copain a aussi dans les mains. Et toutes les cartes qui ont été jouées sont récupérables par les autres joueurs. Donc c'est assez amusant parce que c'est aussi un jeu de combinaison de cartes. Plus tes cartes sont puissantes, moins elles ont de pouvoir, et moins elles sont puissantes sur le jeu, plus elles ont de pouvoir en termes de combo. Donc c'est assez amusant parce que même si c'est un jeu de belote, j'ai bien peur encore une fois que ça s'adresse toujours au même public, c'est un public de joueurs quand même.
Ouais, d'accord. Okay. Non, c'est la question que j'allais te poser parce que effectivement ça a l'air quand même un peu touffu comme genre de jeu, c'est pas un simple jeu entre guillemets de type belote. Et donc du coup tu reviens quand même là t'es encore sur une gamme qui s'adresse plutôt des joueurs experts.
C'est ça, le but du jeu c'est on essaie de créer une communauté et on va proposer à cette communauté de multiples jeux. Quoi.
D'abord s'adresser à cette niche là avant d'aller chercher d'autres personnes, quoi. Garder cette niche.
Ouais, je sais même pas si le but est d'aller trouver d'autres types de personnes. On les trouvera sur les bandes dessinées, on les trouvera sur les jeux de rôle, on les trouvera sur les nouvelles.
Tu penses que tu peux toucher un panel suffisamment large de personnes pour que ça soit économiquement viable ? J'imagine que toi tu vis de ta société.
Ouais, tout à fait. Déjà c'est un projet qui est multinational entre guillemets, c'est-à-dire que le marché en langue française c'est à peu près 10% du marché mondial dans le domaine du jeu. Et ce jeu a pour vocation d'être vendu dans le monde entier.
Oui.
Y compris aux États-Unis et en langue anglaise qui représente à peu près la moitié du marché, quoi. Donc même si on est sur des chiffres de jeux experts, Sur le marché mondial, ça représente quand même...
C'est quoi des chiffres de jeux experts à la louche
Ceux qui se vendent le plus, ça, sur le monde entier, ça représente à peu près 70 000 exemplaires, pour donner un ordre d'idée.
Et ça, ce sur serait si tu arrives à faire vraiment à ce que ça marche bien au niveau mondial, tu peux faire 70 000 exemplaires de Exodus.
C'est ça. Ouais. Voilà. Et là, le jeu est en vente depuis 7-8 mois en France. Voilà, si on fait les proportions, je pense qu'on devrait pouvoir y arriver sans.
Ouais, d'accord. Tu peux rester dans les clous.
Pourquoi t'as attendu pour la version anglaise, hein? Tu voulais te servir du marché français un peu comme un bac à sable et voir comment ça produit.
Il y a aussi la traduction de l'univers, j'imagine.
Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que c'est probablement un des derniers gros projets que je mènerai dans ma carrière professionnelle. Et comme j'y suis un peu attaché, j'ai envie d'aller le faire vivre moi-même aux États-Unis et donc d'aller prêcher la bonne parole là-bas, plutôt que de le confier à un éditeur comme on a pu faire pour les Poilus, par exemple.
Ça veut dire quoi alors ça ?
Ça veut dire que je veux qu'on fasse jouer le jeu là-bas et pas simplement qu'il soit sur un catalogue d'éditeurs. Et donc voilà, je vais aller former des équipes là-bas pour qu'ils soient capables d'expliquer le jeu. Et pour les États-Unis, qui est un marché stratégique avec énormément de sorties, je pense que c'est pas idiot non plus d'y aller en ayant avec soi Exodus, ses trois extensions, Carman Swap et l'épisode 2 entre les mains.
Tu veux arriver vraiment à quelque chose de complet, quoi, quelque chose qui s'installe. Un peu comme ce que tu as fait pour l'épisode 1 avec un univers déjà installé.
Voilà.
Là, tu veux arriver avec une gamme déjà un peu installée.
Aux États-Unis, quand on va présenter le jeu aux Américains, ils sauront que le produit est un produit à succès en Europe. Tous ceux qui ont joué en Europe et qui ont ramené des boîtes aux États-Unis et qui font le boss sur Board Game Geek, qui ont déjà mis le jeu, je crois qu'il est à 8.6 ou à 8.7 en valeur, feront que le jeu sera attendu, le jeu existe, il y a déjà la suite. Donc ça, tout de suite, c'est un truc qu'on regarde. Quoi. Voilà. Okay. C'est une manière d'être plus facilement visible.
Ça c'est Sweet Games, tu as parlé de 6 jeux présents.
Voilà, donc à côté de ça, sur les jeux qui existent, on présente aussi Troll, bien sûr, en jeu de cartes, chasse du tribu Troll dans les montagnes du Nord.
Qui est décorrélé donc de l'univers de Exodus, etc.
Il n'y a pas de Troll dans Exodus.
Non, il n'y a pas de Troll dans Exodus, en tout cas pas que je sache.
Pas encore.
On n'en a pas trouvé encore. Ensuite, il y a Créus, donc le jeu coopératif où les titans essayent de créer une planète idéale. Très beau jeu coopératif de Julien Protière. Et puis surtout, donc, on présente quatre nouveautés, qui sont les quatre produits là, qu'on est en train de fabriquer cet été. Donc il y a Zombibus, par Christophe Leras, qui est aussi l'auteur de Troll. Donc, ça, c'est un jeu superbe, bien loufoque, où les joueurs jouent un groupe d'étudiants dans une université américaine qui s'appelle San Romero.
Il y a des zombies.
Il y a des zombies qui sont en train d'attaquer.
Il y a des zombies. Romero, bien sûr, j'imagine, en référence à Romero.
J'aime quand la culture est partagée. et on tombe nez à nez avec un bus à l'intérieur duquel se sont réfugiés des cheerleaders, toute l'équipe de cheerleaders de l'université, et qui le bus est agressé par des zombies. Toutes les sorties du bus sont condamnées par les zombies. Nos cheerleaders n'ont aucune chance, sauf si elles reçoivent de l'aide extérieure. Et l'aide extérieure, c'est nous.
Il va falloir aller sauver ces pauvres cheerleaders.
On est 5. Il y a Suzanne et Jenny. Jenny, elle n'est pas forcément... taillé pour le corps à corps, en tout cas pas contre les zombies. Il y a Creepy aussi qui est avec nous, c'est mon chien. Voilà.
Donc ça c'est un jeu coopératif du coup.
Alors
taper le plus de cheerleaders à la fin.
La subline du jeu, c'est le jeu coopératif où c'est chacun pour soi.
D'accord.
C'est-à-dire que on peut sauver toutes les cheerleaders et à ce moment-là on a tous gagné ensemble. Mais si par hasard ça se passe pas très très bien avec les zombies, il faut aussi penser à sauver sa peau. Donc tu peux réussir à fuir parce qu'il y a un van de satellite d'une télévision locale qui est en train de tout filmer en direct. Et donc on peut se barrer grâce à ce van-là. Le problème c'est qu'il ne faut pas attendre le dernier moment pour partir parce que c'est souvent trop tard. Mais pareil, si tu pars trop tôt et que tu t'abandonnes tes copains et que tes copains réussissent à sauver toutes les cheerleaders, tu passes pour la honte de l'Amérique forcément.
Tu vois, tu gagnes pas.
Donc toute la salle peut te huer, ce qui est pas agréable. Mais inversement, si tu réussis à t'enfuir et que tous tes copains sont massacrés, forcément, ce sera toi le héros, parce que tu seras le seul à avoir sauvé des cheerleaders et à avoir tué des zombies. Quoi. Donc voilà, c'est un jeu coopératif où c'est chacun pour soi. Okay. Et c'est hyper fun. Quoi. Et il y a notamment une très très bonne idée dedans, c'est qu'il y a 6 zombies spéciaux dans la boîte. Et en début de partie, tu en mets 3 au hasard. Et tu ne sais donc pas ce que tu vas rencontrer comme saloperie dans la partie. Donc toutes tes parties sont différentes. Et alors là-dedans, tu as des trucs un peu délirants. Tu as un vendeur de hot dog, tu as un shérif, tu as un écureuil fou. Enfin bon, tu peux tomber sur des trucs complètement délirants. Quoi. Donc Zombibus, c'est sympa. Pour la première fois, on présente aussi, là en avant-première, donc un jeu de Bruno Fiduti qui s'appelle Ménestrel, illustré par David Cochard. 2 ans de boulot pour les 60 illustrations du jeu, qui a fait un boulot absolument colossal sur les illustrations du jeu.
C'est juste qu'il n'a pas travaillé vite ou...
Non. Fais gaffe, il fait au moins 1m90.
Mais il n'est pas là.
Faire attention.
Et notre président mesure au moins 2m10. On peut le dire.
Non. C'est juste qu'on voulait un style particulier. On a eu du mal à le trouver. Mm-hmm. Et finalement, il a trouvé un style absolument superbe. Les illustrations sont vraiment splendides. Et là, c'est la première fois qu'on présente le jeu. Donc, c'est un jeu de collection. Hein. Le roi va passer en ville. Donc, tous les nobles essayent de...
C'est quand on arrive en ville, non ?
Donc, tous les nobles essayent d'organiser la plus belle fête possible avec tous les artistes du coin pour que le roi vienne chez eux plutôt que chez cet enfoiré de duc ou de prince, etc. Okay. etc. Et donc, tu convoques tous les artistes, donc des chanteurs, des musiciens, des troubadours, des acrobates.
Il faut présenter la plus belle collection pour qu'ils viennent chez nous.
Voilà. Et alors, c'est très amusant parce que... quand tu regardes bien les illustrations, tu vas trouver Björk, tu vas trouver Mick Jagger, Duke Ellington,
Ménestrel du temps moderne,
Prince, etc. Voilà. Okay. David a pas mal déliré sur ses illustrations.
D'accord. Est-ce qu'on voit Johnny ?
Non, il n'y a pas de Johnny. Il n'y a que non. Voilà. Ensuite, on a un jeu familial, Mon Royaume, qu'on présente aussi. C'est la deuxième fois qu'on le présente. On l'a présenté à LudiQuest la semaine dernière. Donc là, c'est un jeu pour jouer avec ses enfants entre 7 et 12 ans. Mm-hmm. On joue dans l'univers du conte. Tu dois d'abord réussir à construire ton royaume idéal avec 10 tuiles que les joueurs vont sélectionner via une espèce de draft, en fait. Donc ton royaume composé de 10 tuiles, tu as 4 héros qui forment ta base. Après, tu as 3 habitations, 2 lieux particuliers et le château qui vient couronner l'ensemble. Et en début de partie, on t'a distribué 2 contes qui, à chaque fois, font intervenir des actions et des personnages. Et tu dois essayer d'intégrer ces tuiles spécifiques-là dans ton royaume pour marquer un maximum de points bonus. Voilà. Okay. Ça, c'est très, très sympa.
Très bien. Okay. Bah, plein de choses, alors, en tout cas. Très varié.
Juste deux, trois questions sorties de jeu, tout ça. Donc, toi, tu es un vieux de la vieille, quand même, dans le milieu du jeu de société, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, je fais partie des dinosaures. On est plus très nombreux dans le secteur. Je
faisais partie de Tilsit, c'est ça ?
Ouais, j'ai créé Tilsit et dirigé pendant 17 ans. Voilà, donc avec quelques jeux qui ont marqué en France, que ce soit des jeux en distribution, comme les Colons de Catane, tous les jeux sur les Seigneurs des Anneaux à l'époque, les Guerres de l'Anneau, des jeux de création, Himalaya par exemple. Voilà, enfin beaucoup beaucoup de jeux quoi.
Ça c'est une histoire qui s'était finie en 2005.
Je sais plus. Ouais, ça fait une dizaine d'années grosso modo. Ouais.
Et donc toi, tu as remonté Sweet November derrière,
ouais.
Un peu quelques années, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Il y a pas mal d'anciens salariés de chez Tilsit qui souhaitaient qu'on n'arrête pas forcément le type de jeu. Au début, moi, j'avais dit OK, mais je ne veux plus faire de jeux adultes parce que le marché devient un peu fou avec tous les jeux qui sortent. Donc, on a fait toute une gamme de jeux enfants. On a commencé avec une gamme de jeux enfants qui fonctionne très, très bien, d'ailleurs, avec des titres qui ne sont pas forcément connus du grand public. Mais
c'est quoi votre jeu phare ?
Tous au poulailler. Et même pas peur. Voilà, qui sont des jeux qui ont une dizaine d'années maintenant et qui sont des grosses ventes. Même si on ne les connaît pas forcément, mais les boutiques les connaissent. Et puis, voilà, le problème, c'est que moi, je me fais chier sur les jeux enfants. Quoi. C'est pareil, du je peux pas les animer sur les festivals.
Le naturel revient au galop.
J'ai envie de tuer les parents rapidement. Donc, donc j'ai essayé une fois, je me suis dit, bon, ça, c'est pas pour moi. Donc, voilà. Donc, ouais, c'est ça. On a décidé de rééditer Macabana il y a quelques temps. Ouais. Et puis, et puis après, bon, il y a eu quelques jolis projets qui nous sont passés dans les mains. Il y a eu le projet des Poilus, notamment.
En collaboration avec Ubi, qui a aussi sorti son jeu indé à un moment, Les Poilus, Mémoire de la Grande Guerre.
Ouais, ça n'a rien à voir, mais c'était dans l'air du temps, visiblement.
Ah,
ouais.
Ça devait être vers 2014.
Ouais, les Poilus, donc ça a été un gros succès. Maintenant, j'en parle au passé, puisqu'on a vendu les droits aux Américains. Mmh. C'est Simone Coulminier-Note qui a les droits mondiaux.
J'avais cru voir passer ça. Ouais.
Voilà. Mais voilà, un gros succès. Mmh. Un jeu sur la psychologie des Poilus dans les tranchées de la guerre des 14,
au-delà même du succès.
Et avec des joueurs, il y a eu des éditions en Chine, au Japon, en Corée, en Pologne, en Russie. aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, en Italie, enfin un peu partout dans le monde. C'est
assez, pourquoi, c'est assez pourquoi l'avoir vendu du coup ? Tu te sentais plus les épaules de porter ça ?
Le
chèque était trop beau, il y a trop de zéros ?
Non, mais on l'a fait pendant 3 ans, c'était pas mal. On était en train de développer une grosse boîte qui aurait dû sortir en octobre l'an dernier. Moi j'ai vendu en juin l'an dernier, donc je pense que ce Cold Miner Note le sortira là cette année, qui s'appelle l'édition Armistice. Et puis voilà, Cold Miner Note a fait une proposition d'achat. Il y a parfois des propositions que tu peux pas refuser.
Ouais, c'est ça, il y avait beaucoup de zéros.
Ouais, et puis il y avait des dollars à la fin. Bon, voilà. Et ça me permet, entre autres, de pouvoir financer des projets un peu fous comme
Exodus.
Comme Exodus.
Voilà. Et quand on te fait une offre comme ça, en fait, du coup, c'est, tu touches plus de royalties, rien derrière. C'est,
non, là, j'ai vendu les droits en totalité. J'ai pris le pognon, j'ai vendu.
C'est quoi la fourchette de vente d'un truc comme ça ?
C'est entre zéro et beaucoup.
tu veux pas nous dire
non
mais un ordre de grandeur quoi. C'est pas
moins,
1000 euros
moins
c'est pas 10 000 c'est plutôt près de 100 000 euros un truc comme ça
ouais c'est à peu près ça ouais. C'est, en tout cas c'est l'ordre de grandeur
okay.
mais c'était une belle voilà parce que au début quand on a signé avec les auteurs on pensait pas on a vendu plus de en 2 ans et demi on a vendu plus de 100 000 boîtes
ouais, c'est énorme c'est cool.
Et voilà on pensait pas en vendre autant même si je me souviens on est jamais à l'abri d'un succès parce que le jeu était novateur jeu coopératif qui joue uniquement sur les sentiments sur la psychologie c'était complètement différent mais il fallait que le public le comprenne
et ça, j'ai joué c'était vraiment
et qu'il y accroche quoi,
qu'il le comprenne et qu'il arrive
c'était pas gagné et ça a marché. Bon, après le problème quand tu as un gros succès, quand tu as un succès de ce type-là, voilà, pour ma société, quand je faisais un salon pendant 3 ans, en fait, la moitié du stand était consacré au poilu. Et ça laissait peu de place pour le
ça
reste.
Ça phagocytait tout le reste un peu, c'est ça le problème hein.
Ouais.
Alors c'est un problème de riche, hein, faut être honnête. mais voilà, là ça me permet de faire autre chose. On va être aussi très honnête, si j'avais eu 20 ans ou 30 ans, j'aurais pas vendu. Là maintenant, plus d'un demi-siècle, te contemple quand je te regarde. Donc voilà, à mon âge, j'ai plus besoin de construire un catalogue. J'ai juste envie de me faire plaisir sur les produits que je sors. Et ça va me permettre de me faire plaisir pour les 10 prochaines années. Quoi, voilà.
Ok, super, très bien.
Le temps de relancer Tilsit.
Non, Tilsit, ça a été une bonne partie de ma vie, avec plein d'expériences intéressantes, des rencontres hyper sympas, à une époque de pionnier, puisque le jeu n'existait pas encore sur le marché. J'ai l'habitude de dire, on était les pionniers, on est la première vague du débarquement. Voilà, Tilsit a réussi à aller jusque dans le bocage. On n'a pas réussi à sortir du bocage. C'est Asmodée qui est sorti, parce qu'à l'époque, on était à peu près de la
même taille. Ce n'est pas les Allemands qui vous ont tué.
Non, c'est mon incompétence. Hein. Mais voilà, c'était une période assez sympa. On n'est plus très très nombreux.
Vous êtes combien maintenant dans Sweet November
hein Sweet November,
pour ces projets
Sweet November, c'est particulier, parce que Sweet November, c'est la société qui édite, mais en tant que telle, elle travaille qu'avec des indépendants. Donc les auteurs sont indépendants, bien évidemment, les illustrateurs sont indépendants. Mmh. On travaille avec des directeurs artistiques freelance.
D'accord.
Ce qui fait que la structure n'existe pas. Voilà. Parce que,
du coup, en fait, t'es tout seul en fait dans Sweet November.
Je suis même pas salarié de Sweet November, j'en suis juste le dirigeant.
D'accord.
Voilà. Okay. Donc Sweet November est une coquille vide entre guillemets.
D'accord.
Qui ne fait que
déléguer,
ça pas l'air comme ça.
Posséder, qui ne fait que posséder des droits et faire travailler des gens.
Ok.
Voilà. Mmh. C'est comme ça que ça fonctionne. Tilsit, une société qui avait beaucoup de salariés en France, à l'étranger. C'est un autre métier. Arrivé à un certain âge, tu n'as plus envie de te faire chier avec ce genre de choses. Donc voilà, là, ça a été conçu différemment.
Ok, très bien. Écoute,
merci
beaucoup.
Et ben, merci de ta participation.
La petite question. Hein.
Ah oui, est-ce que tu as déjà mangé une bretzel ce matin ?
Non, pas ce matin, mais hier soir à l'installation.
D'accord. Ben, merci beaucoup, en tout cas. Très intéressant. Tout ça.
Merci et à une prochaine.
Merci à
prochaine
à toi.
Festival.
Ciao, les amis. Et bon festival. On va faire juste un petit essai micro. Est-ce que tu peux nous dire, je sais pas, qu'est-ce que tu vas manger à midi, par exemple ?
Je vais manger du troll farci à midi.
Ah, c'est pas mal.
Ouais, la chasse a été bonne.
Tu t'en fous gauche-droite, on est en mono.
On s'en fout, c'est clair.
Ouais, moi, sinon, je suis pas bien.